Stop, c'est parti.
C'est pas la télé.
Nous allons parler de l'information.
MJV.
Les journalistes ne m'intéressent pas.
You are fake news.
Hello.
Il est tout pile 9h40 sur France Inter. L'instant M traverse les Alpes.
Vous êtes en direct, allez-y.
L'Italie est un très grand pays de presse. Les tirages de nos journaux français sont bien pâles à côté des leurs et toutes les grandes familles politiques y sont représentées. C'est le pays des éditorialistes lus et très influents. Mais c'est aussi le royaume du talk show et du débat télé. Les Italiens adorent ça, les chaînes en abusent, ça s'invective du matin au soir. Nous vous proposons ce matin une plongée dans ce grand écart médiatique à l'heure du pouvoir populiste. Le gouvernement déverse sans cesse sa haine des journalistes, la Ligue s'est forgée sans la télé. Longtemps, le mouvement 5 étoiles a refusé d'y mettre les pieds. Tous deux ont fait alliance désormais pour gouverner. Leurs visions divergent sur une politique en matière d'audiovisuel, mais côté presse écrite, ils se rejoignent pour mieux entraver les journaux.
L'instant M. Sonia De Villers sur France Inter.
Et bonjour à tous, bonjour Stefano Montefiori.
Bonjour.
Vous êtes journaliste italien, vous êtes correspondant en France du Corriere della Sera. Deux mots sur le Corriere. Politiquement, vous êtes où?
C'est jamais trop facile parce qu'on essaie, bah oui, c'est parce qu'on essaie d'être assez équilibré. On n'est voilà. pas carrément ni à droite, ni à gauche, mm-hmm. ni au centre d'ailleurs. Mais disons, on représente un peu la bourgeoisie qu'on appelait autrefois la bourgeoisie productive du Nord. Toujours attentif aux institutions. Institution, évidemment. Mm-hmm. La seule fois que récemment on a pris parti carrément pour un candidat aux élections, c'était pas pour la droite Berlusconi, c'était pour Romano Prodi. Donc, des fois, on dit qu'on est un journal plutôt de centre-droite, mais la seule fois qu'on a pris position, c'était pour Prodi qui était centre-gauche. Donc,
bien, bien. Alors, voilà. À vos côtés, Stefano Philippe Ridet. Bonjour Philippe.
Bonjour.
Journaliste français, pour le coup, ancien correspondant en Italie pour Le Monde de 2008 à 2016. Ça nous intéressait de vous interviewer. Aujourd'hui parce que justement c'est une période de bascule médiatique et politique dont on va reparler. Et aujourd'hui vous êtes donc grand reporter pour le magazine du Monde, le fameux M, puisque nous partageons le même nom, l'instant M et le M. Alors on va commencer, chers amis et chers confrères, par ce pays, ce royaume du débat télé et des talk shows. Il y en a du matin au soir sur toutes les chaînes privées et publiques. On commence par la Rai 3.
Ha intervistato Salvini, bellissima intervista. Salvini ha attaccato patronaggio, non ha detto la legge è sacra. Questo
ipocrita.
Va bene. Non l'ha detto.
Come no? Io dico che la legge è sacra, glielo dico, la legge di sequestro. Non è sacra la legge di sequestro.
Ha ragione patronaggio.
È sacrissimo.
Ha ragione
patronaggio. Basta. È sacra.
Ha quindi ha torto Salvini. Ha torto Salvini.
No,
ha torto Salvini.
Ha torto Salvini.
Dillo.
Ma io non ho capito una.
Voilà, c'était pour vous donner un peu une couleur. En 2015, c'est-à-dire il y a 2 ans et demi, le correspondant à Rome de l'Obs avait dénombré 148 talk shows, toutes chaînes confondues en Italie, altercations, empoignades du matin au soir, et une chaîne particulièrement dédiée, la 7, qui en a produit jusqu'à 25 par jour. Stefano Montefiori, pourquoi cette particularité du PAF italien?
Je crois que déjà, il y a une raison assez basique liée au coût, c'est-à-dire que produire des talk shows est pas trop cher, mm-hmm. et donc on peut remplir toute la programmation de la journée à force des causeries, à force des rixes télévisées. Et donc voilà, le plus important, je crois que c'est ça. Après, il y a aussi une habitude, une passion du public, probablement, pour ce genre de débats. On aime bien s'engueuler. Et voir de la pugnacité à la télé. Après, il y a toute la question de voir si des fois on sort enrichi et en ayant plus de connaissances qu'avant, ou si c'est seulement un défouloir des rages.
Alors, il y a tous les registres hein, dans le ouais, talk show, dans ouais, le débat absolument. Télévisé, du mieux tenu et du mieux conduit, comme du pire, mais quand même, on peut attirer l'attention sur les titres. Agora sur Rai 3, La Bersaglio mobile, et ça veut dire la cible mobile, ouais. virus, la Rai 2, et virus, ça s'appelle Porta a Porta sur la Rai 1.
Porta a Porta est le plus ancien talk show et peut-être le plus important, le plus institutionnel.
Voilà, et Berlusconi a fait énormément d'annonces
oui,
et d'apparitions.
Autrefois, on disait que Porta a Porta était la troisième chambre du Parlement italien, c'est-à-dire mm-hmm. qu'elle avait une influence, une puissance médiatique considérable avec Bruno Vespa, qui est un journaliste là depuis 40 ans.
Alors, je vous fais écouter un extrait de la la gabbia. La gabbia, ça veut dire la cage. Là aussi, le titre veut tout dire, mais il faut voir le plateau avec des couleurs façon Mad Max. C'est une arène noire et grise entourée de barres métalliques. Les débatteurs sortent de la cage. La lumière est crue. Les débatteurs sont debout. Je vous fais écouter Matteo Salvini qui aujourd'hui, évidemment, est au pouvoir. C'était 2 ans avant son arrivée au gouvernement.
Poi sono una studiosa di populismo, ci mancherebbe.
È una studiosa di populismo?
Sì, lei interpreta a perfezione.
A non vanno in galera. E B, se per sfiga ci vanno, escono dopo poco perché il Parlamento e gli amici della signora votano gli indulti, gli svuotacarceri, gli sconti di pena, le depenalizzazioni. Sai, quelli che studiano...
Philippe Ridet, un mot sur la gabbia? La cage.
La gabbia, c'est un peu la dernière émission que j'ai vue apparaître quand j'étais correspondant. Donc effectivement, le dispositif scénique est très impressionnant parce que ça ressemble à une cage au lion. Et le fait que les débatteurs soient debout, d'une certaine façon, les conduisent à une gestuelle bien plus violente d'une certaine façon. Absolument. Que s'ils étaient simplement assis.
Un mot sur son animateur aussi, Gianluigi Paragone.
Voilà, Gianluigi Paragone est quelqu'un qui n'a jamais fait mystère de ses liens avec la Ligue, puisqu'il a même été directeur de la Padania, le quotidien de la Ligue. Et donc, il a effectivement privilégié dans cette émission des sujets, surtout qui intéressaient la Ligue, comme l'insécurité, comme l'immigration. Donc, on a mangé de l'insécurité et de l'immigration quasiment une fois par semaine dans son émission. Et il a effectivement mis en scène Salvini. Ça fait partie des émissions qui ont porté Salvini, non pas au pouvoir, parce que c'est plus compliqué que ça, mais en tous les cas à la connaissance du grand public.
Stefano Montefiori, précision, le mouvement 5 étoiles, donc qui ont fait alliance avec Matteo Salvini de la Ligue, le mouvement 5 étoiles a longtemps refusé toute invitation à la télévision. Et pourtant aujourd'hui ils y viennent, mais dans des conditions bien particulières.
Oui, c'était un des premières prises de position fortes du mouvement 5 étoiles pour se différencier des autres forces politiques, c'était justement de boycotter les transmissions télé, comme, en disant que c'était, comme toujours, les domaines des partis politiques traditionnels, ou sinon des magouilles de la désinformation. Après, ils ont accepté d'y participer, mais à la condition fondamentale de ne pas avoir des autres invités pour faire du contradictoire.
De ne pas avoir de contradicteur, c'est extraordinaire. Et on s'y plie à la télévision italienne?
Récemment, pour moi, parce que après la naissance du gouvernement, ça commence à devenir vraiment encore plus inacceptable. Donc, soit les mouvements 5 étoiles acceptaient d'adoucir un peu cette règle implicite, soit les médias sont un peu plus rigoureux. Et donc, là, ça commence un peu à changer.
À se réveiller, on commence à se réveiller.
Mais longtemps avant les élections, c'était comme ça.
Sans contradicteur pour faire de l'audience.
Dans l'espoir d'avoir quand même le grand nombre, la grande personnalité politique du mouvement 5 étoiles, accepter de faire une interview avec un journaliste, mais sans d'autres représentants d'autres partis politiques. Donc longtemps, la vérité exprimé par le mouvement 5 étoiles
était délivré tel quel. Mais oui, Philippe Ridet.
Oui, ce qui ne veut pas dire non plus que le mouvement 5 étoiles s'est fait connaître sans médias. Elle s'est fait connaître avec des médias alternatifs. C'est-à-dire que ce qui a permis l'émergence du mouvement 5 étoiles, c'est essentiellement le blog de Beppe Grillo, qui a été longtemps classé par les blogs les plus lus, enfin les plus vus au monde. Et effectivement, c'est une interaction avec ses fans qui est peu contradictive, contradictoire. Et l'autre média qui a été très influent pour le mouvement 5 étoiles, c'est Il Fatto Quotidiano, qui est le dernier né des journaux italiens de la péninsule, et qui est désormais le journal un peu organique du mouvement 5 étoiles, même si de temps en temps il y a des critiques, mais enfin elles
très
sont vraiment
très virulentes, très populistes, très voilà. Je vous fais écouter un petit extrait de Radio Padania, qui est donc le média de la Ligue. C'est extrêmement intéressant parce que on parle de deux formations politiques qui se sont construites à l'inverse de Berlusconi. Ce ne sont pas des médias qui ont fait main basse, des partis qui ont fait main basse sur les médias. Là, on vous parle d'un tout petit média indépendant.
Lunedì 5 marzo 2018, una data che entrerà nella storia della Lega con il 18% su scala nazionale. Primo partito del centrodestra, via Bellerio 41, sala Miglio, strapiena di giornalisti in attesa della conferenza stampa. Ce
qui est très intéressant aujourd'hui, Stefano Montefiori et Philippe Ridet, c'est que on voit bien, ils ont des visions de la Ligue et le mouvement 5 étoiles différentes sur l'audiovisuel. C'est-à-dire que le mouvement 5 étoiles veut casser la loi Gaspari de 2004. C'est-à-dire une loi qui avait été faite sur mesure pour Berlusconi. Une loi qui était faite pour pouvoir le faire encore grossir son trust audiovisuel, le faire conserver ses trois chaînes, Canale 5, Italia 1 et Rete 4, et pouvoir encore s'agrandir en presse écrite. De son côté, alors qu'il avait en plus la main mise sur la RAI, de son côté, le mouvement 5 étoiles voudrait briser ses monopoles. Salvini, lui, il ménage Berlusconi qui a encore de l'influence, Stefano Montefiori.
Oui, finalement, théoriquement, Berlusconi est encore l'allié de Salvini, donc on comprend bien que Salvini ne cherche pas l'affrontement direct, d'autant plus qu'on ne sait pas encore vraiment quel sera le schéma politique avant les élections européennes. Donc oui, on est un peu dans l'attente et je crois que la question ne va pas être résolue dans les prochaines semaines.
Alors, ce qui est intéressant, et vous l'avez vécu, Philippe Ridet, quand vous étiez correspondant à Rome, c'est cette toute-puissance de Berlusconi, qui a été une toute-puissance sur les médias privés, qui étaient les siens, mais aussi cette mainmise sur la RAI, la RAI, 11 000 salariés aujourd'hui, dont on vient de nommer un nouveau directeur extrêmement contesté. Ça a été une tempête, la nomination de Marcello Foa, qui a 54 ans. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots?
Alors, Marcello Foa, donc, c'est le nouveau patron de la RAI. Alors, c'est un journaliste à tous les égards. Hein. Il a étudié le journalisme, il a enseigné le journalisme, il a 55 ans. Il a fait l'essentiel de sa carrière en Suisse parce qu'il est italo-suisse dans un groupe tessinois. Et il est assez proche, il a toujours été proche de la droite puisque un de ses premiers postes, ça a été dans un journal qui s'appelle Il Giornale, et justement qui est un des rares quotidiens d'opinion, dirais-je, qui soit la propriété de Silvio Berlusconi, puisque les autres journaux de Silvio Berlusconi sont plutôt des magazines un peu people ou de télévision.
Et Marcello Foa n'a jamais fait de télévision.
Et Marcello Foa n'a jamais fait de télévision.
Télévision et radio, il n'en a jamais fait.
Alors, il a quand même quelques casseroles, disons, enfin, en termes de, pour un journaliste, c'est-à-dire qu'il ne croit pas à l'efficacité des vaccins, il est ouvertement contre l'homosexualité, il défend les fake news, il a mis en doute à un certain moment que Al-Qaïda soit vraiment l'auteur des attentats à New York. Enfin bref, disons qu'il a un passif un peu lourd, même si il est revenu sur certaines de ses...
C'est le double de Salvini, c'est l'homme de Salvini. Hein. Ils sont extrêmement proches tous les deux. Ils ont même rencontré Stephen Bannon, qui est le chantre de l'alt-right, de l'extrême droite américaine et du complotisme mondial à Rome.
Oui, et en même temps, comme Philippe venait de rappeler, en effet, il y a aussi une convergence avec toutes les grands thèmes du mouvement 5 étoiles, parce que un peu l'attitude complotiste, ce que vous racontez depuis des décennies n'est pas forcément vrai, parce qu'il y a toute une vérité alternative.
Et politiquement, il est souverainiste, il est pro-Poutine.
Oui, absolument. Après, d'un point de vue journalistique, d'un point de vue du président de la plus grande société culturelle de l'Italie, comme on appelle la RAI, ça pose un petit peu un problème, le fait que Marcello Foa est préfacé et a présenté publiquement les œuvres d'un journaliste carrément complotiste qui écrit des livres pour expliquer qu'on est gouverné par une coupole d'Illuminati, pour expliquer qu'Al-Qaïda justement n'a pas forcément frappé le 11 septembre, mais c'était un inside job des États-Unis. Et voilà, et Marcello Foa soutient cette journaliste. Donc après, en même temps, il faut un peu s'y faire dans le sens où...
Et le fils de Salvini travaille directement avec Marcello Foa. Philippe Ridet, vous vouliez...
Oui, je voulais ajouter à cette galerie de portraits un autre portrait que les gens connaissent moins, encore que Marcello Foa soit pas très très connu en France, c'est Rocco Casalino.
Alors qui est-ce?
Qui est Rocco Casalino? Alors, c'est le Benjamin Griveaux de l'Italie, c'est le porte-parole du gouvernement, mais il a aussi un parcours très particulier parce qu'il a été connu à partir de 2000 parce qu'il a fini quatrième, ce qui est déjà pas mal, du Grande Fratello, donc un peu le love story.
Donc un programme de télé-réalité.
De télé-réalité, donc c'est un peu le Steve Boulet de l'Italie, si vous voulez. Et cet homme-là a adhéré très vite au mouvement 5 étoiles à partir de 2011 et il est devenu peu à peu patron de la communication des sénateurs et maintenant il est donc le porte-parole du gouvernement et à ce titre il est quand même payé 136 000 euros par an alors que le premier ministre italien Giuseppe Conte n'est payé que 110 000 euros par an. Donc vous voyez, on a à la fois des gens qui croient aux fake news et qui dirigent la plus grande entreprise culturelle italienne et des gens issus de la télé-réalité qui dirigent la communication du gouvernement. Donc là, il y a peut-être un petit problème.
Alors l'un et l'autre justement, moi je voudrais votre bilan aujourd'hui, c'est-à-dire que le système Berlusconi était relativement simple à décrypter, c'est-à-dire pouvoir médiatique et pouvoir politique d'un seul tenant. Là, on a affaire à des mouvements politiques qui, encore une fois, se sont construits avec les réseaux sociaux, avec des mouvements alternatifs qui se sont construits contre les journalistes, contre la télévision. Donc, c'est une autre forme de construction par rapport à celle de Berlusconi. Et pourtant, on en arrive là. Donc, j'aimerais bien que l'un et l'autre, vous me donniez votre sentiment, Stefano Montefiori, sur ce rapport entre télévision et démocratie en Italie.
Oui, c'est un rapport crucial, délicat et difficile, mais auquel il faut ajouter le fait que, de plus en plus, les responsables politiques italiens au pouvoir, Salvini par exemple, utilise se passe carrément de la télévision parce qu'il utilise de plus en plus les
Facebook
Twitter,
Instagram.
Voilà les directs Facebook. Alors Salvini, c'est vrai qu'il est omniprésent dans la télé. Justement, ce matin sur le Corriere, on a un article très bon de Gian Antonio Stella qui explique qu'il a le gouvernement a les 64% des minutes dédiées à la politique et Salvini à l'intérieur de ces 64, il est carrément le premier et il égalise les 7 suivants. Donc c'est vraiment une image omniprésente à la télé.
Omniprésente à la télévision.
Mais de plus en plus, la télé est regardée par les gens plus âgés, par les, disons, les over 50s.
Oui.
Alors que les réseaux sociaux, voilà, les plus jeunes sont scotchés aux réseaux sociaux. Et là, c'est vraiment la force inouïe de Matteo Salvini qui tweet régulièrement à longueur de journée ses déclarations politiques, mais aussi, aujourd'hui, je vais déjeuner avec du bon risotto et boire du lambrusco. Et vous, vos amis, qu'est-ce que vous mangez aujourd'hui? Donc,
Philippe Ridet, moi, ce que je me demandais aussi, c'est tout ce qu'on vient de raconter de la télévision italienne. Et je suis contente qu'on ait pu parler des talk-shows, des débats, des grands animateurs, etc. Parce que on peut avoir une vision de la télévision italienne, les vélines, les filles à poil, les jeux, les divertissements et c'est tout ça, et moins de ces débats. Est-ce que vous pensez que la télé berlusconienne a préparé d'une certaine manière l'Italie d'aujourd'hui?
Oui.
Alors, les consciences d'aujourd'hui, les citoyens d'aujourd'hui.
De l'œuf et de la poule. Hein. Oui. Je pense aussi que les Italiens ont fabriqué leur télévision. Oui. Mais partant du principe que la télévision est fabriquée une partie des Italiens, c'est très vrai. En tous les cas, pour ce qui est de la politique, la télévision italienne a vraiment inventé la politique spectacle. C'est-à-dire que de la même façon que les Italiens adorent discuter de la partita della domenica du lundi jusqu'au vendredi, veille de la prochaine du prochain match, la télévision a inventé cette espèce d'après-politique ou de politique permanente où on discute à l'infini sans que personne n'ait jamais raison. Et finalement, c'est l'invective qui permet de trancher. C'est-à-dire, qui crie le plus fort, celui-là aura forcément raison.
Avec Stefano Montefiori, toujours ce mot d'ordre qui revient beaucoup à la télévision française, il faut donner la parole à tout le monde, au pire du pire de toutes les formations, voire au plus crétin de tous les débatteurs.
Bah oui, parce que après, il faut se mettre d'accord sur les paramètres sur lesquels on juge les personnalités politiques. Et là, le paramètre de qualité et de compétence a sauté depuis longtemps. Donc finalement, c'est l'efficacité.
C'est l'audimat qui...
Voilà, c'est l'audimat et l'efficacité. Alors, après, les talk shows en Italie sont structurés avec du public dans la salle qui souvent applaudit beaucoup. Donc, on a un peu cet effet. Quelqu'un dit une chose discutable, mais le dit de façon très forte, très efficace, tout le public applaudit sous l'incitation des animateurs de la salle qui incite à applaudir pour que l'émission ait une atmosphère de succès, de participation. Et donc finalement, on assiste à des déclarations discutables, mais avec toujours beaucoup d'applaudissements, d'enthousiasme.
Merci beaucoup à tous les deux, Philippe Ridet du Monde et Stefano Montefiori du Corriere della Sera. Vous reviendrez parler de presse écrite, puisque là on a fait un gros chapitre sur la télévision. Je ne sais pas si vous avez compris le message qui sous-tendait cette émission, mais je pense qu'en France, en ce moment, dans le PAF, on assiste à une surenchère des débats politiques de plus en plus mis en scène, de plus en plus divertissants, où l'infective fait rage et fait de l'audience. Bref, vous voyez le message que je voulais faire passer
L'Italie
ce matin.
Et le laboratoire de l'Europe.
Bah, peut-être. Voilà. Et en matière de télévision et de politique, certainement.